Mesdames, Messieurs, la suite de votre programme culturel en provenance de Radio Campus Grenoble et à destination de votre poste de radio arrivera par le 90.8.
Merci Radio Campus de nous tendre le micro pour vous parler du travail social et médico-social. Cette émission, là, elle s'inscrit dans le cadre des 3 jours de la mobilisation nationale des travailleurs et des travailleurs sociaux pour des conditions de travail acceptables et des moyens à hauteur des besoins pour l'ensemble des personnes que l'on accompagne. On veut que cette émission, elle s'adresse au grand public pour expliquer concrètement ce qui se passe quand les budgets sont restreints, sont revus à la baisse et que les professionnels sont mis à mal dans leur structure. On va donner la parole à des personnes concernées et à des pros d'horizons variés pour mieux appréhender les réalités du travail social aujourd'hui et les problématiques auxquelles on est confronté. Ça me semblait important de redire c'est qui les travailleurs sociaux aujourd'hui en France. Donc c'est beaucoup des femmes, et de moins en moins quand on monte dans la hiérarchie, qui se composent de personnes avec des diplômes très variés et qui œuvrent dans des champs aussi différents que celui du handicap, donc de l'enfance à l'âge adulte, que ce soit à domicile ou en institution, que ce soit ensuite le champ de la protection de l'enfance. Donc les personnes qui travaillent dans repérer les situations de maltraitance, accueillir les enfants placés, soutenir les familles qui rencontrent des problématiques éducatives. On parle aussi de l'insertion par l'emploi, l'insertion par le logement, les personnels de prévention spécialisée, donc les éducateurs de rue qui rencontrent les jeunes là où ils sont, l'accompagnement des personnes aux droits minorés, donc les personnes étrangères, tous les accompagnements en santé pour les personnes les plus fragiles, les personnes qui interviennent en prison, les personnes qui accompagnent les parcours de sortie de prostitution, et puis aussi la polyvalence de secteur, donc tous les agents du département qui accueillent inconditionnellement sur tout le territoire toute personne qui rencontre des problématiques sociales à un moment ou à un autre dans sa vie. Et se dire que plus largement aussi, on se sent très proche des soignants, des aides à domicile, des AESH qui accompagnent les élèves en situation de handicap, des personnes qui travaillent avec les personnes âgées, des animateurs socioculturels, des enseignants bien sûr, des personnels de la petite enfance et d'une manière générale de toutes les personnes qui font un travail de prendre soin. Et on pense aussi bien sûr aux bénévoles et désolé déjà à ceux que j'ai oubliés. Mais en fait voilà, le travail social, c'est toutes les personnes qui travaillent à la cohésion sociale. On peut dire qu'on croit à un projet de société solidaire, égalitaire et ambitieux, clairement à rebours des discours racistes et stigmatisants ambiants sur les personnes vulnérables, enfin sur les personnes les plus vulnérables et les plus précarisées. L'AG du travail social qui a initié ces 3 jours de mobilisation sur Grenoble à l'initiative des rencontres nationales du travail social, dit clairement qu'on veut pas faire plus avec moins et qu'on veut pas faire moins pour les personnes qui ont besoin de plus. Voilà, ça c'est dit. Et l'idée, c'est de commencer par écouter une personne qui est concernée par le handicap et qui a envoyé un témoignage sur... les conséquences sur sa vie, du turnover notamment pour les personnes à domicile et puis dans l'emploi aussi. Voilà, donc on écoute Jocelyn.
Bonjour, je suis Jocelyn Gosse, je suis en situation de handicap, je fais partie de l'AG Travail Social, je suis bénéficiaire de certains services médico-sociaux et je suis aussi donc futur travailleur social. Donc en premier, je vais commencer par... mon point de vue personnel, donc actuellement les services d'aide à domicile ordinaires, j'ai envie de dire, donc les prestataires sont à bout de souffle manque de moyens, manque de salariés, manque de reconnaissance du travail, des amplitudes horaires à rallonge pour des payes très minimes, si je puis m'exprimer ainsi. Donc voilà. Moi, actuellement, je suis dans un service qu'on appelle un service mandataire. Donc c'est un service... en fait, qui me permet d'être particulier employeur. C'est quoi être particulier employeur ? C'est employer mes propres aides à domicile, Donc, je peux choisir moi-même. Je choisis mon tarif en fonction d'une grille ordonnée par le Conseil général. Donc voilà, l'avantage de ce service, c'est que c'est le service qui s'occupe de tout ce qui est fiche de paye, contrat de travail, de passer les annonces pour les recrutements des aides à domicile. Donc je suis soulagé de toutes ces tâches administratives. C'est un service qu'on rémunère aussi, mais qui est pris intégralement en charge dans notre PCH, donc la prestation de compensation du handicap. Pour faire court, voilà. Moi, sinon, je suis en recherche d'emploi en tant que conseiller en insertion. Entre 50 et 80% dans l'agglomération grenobloise. Force est de constater que je suis diplômé depuis juillet 2024 et que à l'heure actuelle, je n'ai toujours pas de travail parce que les employeurs n'acceptent pas les temps partiels, ont besoin absolument de 100%. Les lieux ne sont pas accessibles. Je n'ai pas le diplôme correspondant. Enfin, tout un tas de choses. Je ne vais pas commencer à en parler ici, mais il y a aussi une discrimination qui est certaine envers les personnes en situation de handicap. Il faut savoir qu'actuellement, il y a très peu de personnes en situation de handicap qui sont en emploi. Parce que justement, bah, il est très compliqué de trouver un emploi quand on est en situation de handicap. Voilà. J'ai pourtant un BTS économie sociale et familiale et un titre professionnel de conseiller en insertion professionnelle. Donc un équivalent bac plus 3. Voilà, donc ce qui n'est absolument pas normal que je n'ai pas de boulot avec ce titre-là. Donc voilà, j'espère que mon message sera entendu et si par hasard certaines personnes cherchent ou ont connaissance de structures qui cherchent un travailleur social ou un conseiller d'insertion pro en temps partiel sur l'agglomération grenobloise, je suis preneur. Je vous remercie.
Du coup, on vient d'entendre le témoignage de Jocelyn Gosse. Il est sur LinkedIn, hein, si jamais vous avez du travail à lui proposer. J'ai oublié de vous dire, on enregistre à l'étage du bar Le Tranquillou à Grenoble, qui nous a gentiment permis de faire une demi-journée de grévistes ce matin dans leur locaux. Donc, on les remercie énormément d'avoir mis leur espace à disposition pour les travailleurs sociaux en grève. Je propose que ce soit le moment d'une petite pause musicale qui va être lancée.
T'es arrivé en pleine nuit, un petit peu après minuit. J'étais déjà endormi, en 2 minutes je suis réveillé. Je me retrouve les chaînes aux pieds, pas le temps de respirer. Ils ont fait un signe de croix, on était tous baptisés, baptisés. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre à ramer. Ils ont mis tous les parents et les enfants de l'autre côté. On était bien alignés comme dans un supermarché. Avec eux pour voyager, pas besoin d'être habillé. nous fait un signe de croix. On était tous embarqués, embarqués. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre. Aramé, Aramé. L'orage qui arrive, on va encore dégueuler. Ça fait des semaines comme ça qu'on est tous là enchaînés. Pas moyen de se lever, pas moyen de se laver. Paraît que c'est la félicité, puisqu'on est tous baptisés, baptisés. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre.
Retour sur Radio Campus pour l'émission de l'Assemblée Générale du Travail Social de Grenoble pour venir vous donner des témoignages de travailleurs sociaux et du travail qui font au quotidien. Et on va commencer avec Clem qui travaille dans un accueil de jour. Donc est-ce que tu peux expliquer pour quelqu'un qui n'y connaît rien en quoi consiste ton travail, s'il te plaît?
Bonjour. Mon travail, c'est un accueil de jour, en fait, c'est un lieu où se poser, boire un café, prendre une douche. C'est des lieux, du coup, qui sont ouverts, qui accueillent des personnes à la rue, en galère, qu'on ait un logement, mais qu'on n'ait pas d'électricité ou pas d'eau chaude. Et surtout, c'est des lieux qui sont anonymes et confidentiels. Donc, les personnes viennent, elles se posent, on les accueille. Et du coup, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas d'inscription à faire, il n'y a pas de projet à remplir. Dans ce monde, c'est un peu rare. Et souvent, moi, quand j'accueille les gens, je dis que c'est possible d'échanger, de se parler ou de ne pas parler. Et ça, souvent, c'est quand même un grand soulagement de ne pas forcément avoir l'obligation de se raconter encore une fois.
Clairement. Et du coup, les personnes, la journée, elles peuvent être dans ces lieux-là. Et le soir, qu'est-ce qu'elles font ?
Et bah ça dépend, il y a des personnes qui sont dehors du coup, qui dorment à droite à gauche, dehors, à des abris bus, chez les uns, chez les autres. Les femmes notamment, elles sont beaucoup hébergées à droite à gauche. Ou certaines personnes sont aussi en hébergement mais ils peuvent pas y rester la journée. Certaines personnes sont, voilà, mais par exemple, la plupart des personnes exilées passent de longs mois à la rue, enchaînées des situations de galère comme ça.
Et notamment, tu peux dire ce que ça fait pour les femmes d'être dehors la nuit, les risques qu'elles prennent et du coup après les conséquences sur leur santé, à la fois mentale et psychologique.
Même pour les femmes, elles sont très invisibles dans la rue. Ça fait pas si longtemps qu'on parle de femmes et d'enfants à la rue aussi, parce qu'il y en a de plus en plus aussi. Et du coup, elles ont des stratégies différentes. Elles vont beaucoup se cacher dans des halls d'immeubles, dans des garages, dans les toilettes de l'hôpital. Elles vont essayer aussi recourir à des situations un peu grises de tu m'héberges mais en fait il y a une proposition sexuelle ou alors c'est carrément une agression. Enfin, en tout cas elles vivent beaucoup de violence, d'agression sexuelle, de harcèlement dans la rue.
Ok. Et concrètement, au niveau des budgets, du manque de moyens sur ce type d'accueil, qu'est-ce que ça génère dans la façon dont on peut recevoir les gens?
Nous, on est un peu le bout de la chaîne du social, on va dire. Ce qui fait que c'est un peu la continuité de tout ce qui dysfonctionne. Nous, notre rôle, c'est plutôt d'orienter les personnes à droite à gauche, d'essayer de les raccrocher à ce qui existe. Et en fait, quand tout ce qui existe se réduit, ça devient de plus en plus difficile. Donc, par exemple, avoir une assistante sociale ou un assistant social, c'est compliqué. Quelqu'un qui va t'aider pour tes démarches au quotidien. Et les délais, ils s'allongent de plus en plus pour les rencontrer. Du coup, quand t'attends un mois et demi parce que t'as une situation d'expulsion, bah, ça devient la grosse galère. Et nous, on vient tout le temps un peu pallier au manque de partout. On essaie de trouver des médecins, on essaie de trouver des spécialistes. On essaye d'accompagner, quand c'est pas possible, quand il n'y a personne, à aller voir une assistante sociale. Mais comme c'est de plus en plus difficile de solliciter tout ce qui existe, bah, ça se reporte d'autant plus sur nous. Donc, en fait, c'est difficile que les personnes accèdent à leurs droits de manière générale. Et nous, c'est notre priorité. C'est aussi difficile comme il y a de plus en plus de monde, vu qu'il y a de plus en plus de monde à la rue et en galère, nous, notre travail, il devient moins fin. C'est-à-dire que moi, mon boulot, c'est aussi d'aller vers les personnes qui font le moins de bruit, qui sont en retrait, qui demandent moins, parce que souvent, il y a aussi beaucoup de souffrance. Et ça, du coup, comme la fréquentation est énormément, on a moins cette attention à chacun, à juste se poser, boire un café et discuter. On est un peu à courir à droite à gauche pour les démarches, et du coup, ça change le lien avec les gens, ça change le sens de ce qu'on fait aussi. C'est aussi, et je pense que ça crée aussi beaucoup de sentiments d'impuissance de voir des personnes qui sont à la rue, des femmes, des enfants, des hommes depuis des mois et qui sont abîmées. Parce que la rue tue, c'est énorme, que ce soit à court terme ou à long terme, les conséquences sur la santé. Et pour plein de personnes, ça pourrait être évité si elles avaient des papiers, un logement, elles viendraient plus en accueil de jour, on n'existerait pas, quoi.
Et juste, tu peux préciser, quand on parle souvent d'accès aux droits, et accéder aux droits, c'est quoi concrètement pour les personnes?
Alors, c'est avoir une boîte aux lettres ou recevoir du courrier, c'est avoir une couverture santé, que ce soit l'aide médicale d'État ou la complémentaire santé solidaire, c'est pouvoir et pour moi plus largement, c'est pouvoir se soigner, pouvoir avoir accès à une psychologue ou un psychologue si on le veut, c'est faire ses impôts, déclarer ses impôts si on le veut, c'est avoir accès pouvoir demander un RSA si on en a le droit, pouvoir faire une demande de logement social, c'est vraiment très vaste en fait. C'est aussi aider des personnes des fois à faire un courrier, ça nous arrive au juge pour demander la levée d'une tutelle par exemple, enfin, ça peut être très vaste.
Et il y a souvent ce truc qu'on entend, en fait, les gens, ils arrivent en France et directement, c'est tout cuit pour eux, ils ont tous les droits, etc. Tu peux clairement dire que ça, c'est pas vrai?
Non, ça, c'est clairement faux. Déjà, ne serait-ce que pour la couverture santé, il faut 3 mois. Et avant ça, t'as rien. Et le temps que ça arrive, c'est plutôt 6 mois. Donc les personnes, elles passent 6 mois avec des difficultés d'accès aux soins. Il n'y a pas de revenus automatiques. Voilà, ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Aussi que les personnes, elles arriveraient directement, elles auraient le RSA ou tout ça. Et dans la réalité, c'est pas du tout ça. Et c'est plutôt des mois, voire des années de galère, des personnes qui peuvent rester en situation irrégulière et avoir du coup pas du tout demandé leurs droits. Et moi, dans mon métier, je constate plutôt des personnes qui demandent pas, qui osent pas demander leurs droits, plutôt que des personnes qui accèdent à des droits. Et nous, les accueils de jour, c'est aussi une des questions par rapport à l'extrême droite. C'est que des lieux qui sont anonymes, confidentiels, qui accueillent tout le monde, passe le seuil de la porte. Ça aussi, c'est... Et du coup, pour l'instant, c'est pas le cas. Mais en tant que travailleur du social, je trouve qu'il y a aussi cette question de comment on se prépare si les financeurs nous demandent de donner de nous financer qu'en fonction des personnes qui auraient des papiers, par exemple. Ça, c'est des choses où il faut que je pense qu'on réfléchisse et qu'on s'arme là-dessus pour résister à ça.
Clairement. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose?
En tout cas, c'est aussi des espaces... Moi, c'est un espace où j'aime travailler parce que c'est un espace de liberté où on peut décider... d'accompagner quelqu'un à un rendez-vous, je sais pas, au planning familial, ou que le fait d'avoir des lieux qui restent comme ça, anonymes et confidentiels, ça crée beaucoup de choses et ça crée, je pense aux femmes notamment, des possibilités de parler et de se raconter qui sont essentielles.
Merci beaucoup.
Merci.
Du coup, on va passer à un tout autre sujet. On va écouter le témoignage d'une AESH, donc une personne qui travaille auprès des enfants en situation de handicap qui sont scolarisés en école ordinaire.
Je m'appelle Émilie, je suis AESH depuis plus de 3 ans maintenant, dans le secteur Villeneuve, depuis mes débuts. Donc, faut savoir que déjà c'est un secteur qui est déjà très très sensible. On intervient dans des écoles avec beaucoup d'EBEP et d'enfants porteurs de handicap assez lourds. Nos conditions de travail, ne serait-ce que moi, en 3 ans et demi, j'ai vu qu'elles se dégradaient de jour en jour. On nous donne de moins en moins de moyens. Nous réclamons tout simplement un statut de catégorie B qui nous permettrait d'être enfin reconnus en tant que fonctionnaires de l'État, parce que là ce n'est pas le cas, on est de simples contractuels et il faut rappeler qu'on fait partie du deuxième métier de l'éducation nationale. Sans les AESH, l'inclusion ne pourrait pas se faire. Donc, faut savoir que moi, à titre personnel, je suis complètement pour l'inclusion dans les écoles publiques. Mais il faut savoir que cette inclusion, elle a des limites. Ces limites, pourquoi ? Parce que malheureusement, en 2025 et arrivé 2026, nous nous retrouvons à pallier au manque de moyens alloués à des centres spécialisés. C'est-à-dire que nous nous retrouvons à faire de la simple garderie sur des enfants lourdement handicapés qui devraient être en institut. AESH signifie accompagnement d'élèves en situation de handicap et non pas garderie. Nous sommes là pour les accompagner dans leur apprentissage, dans leur autonomie. Et là, c'est absolument pas le cas sur ce type de handicap. Donc, je parle d'handicap autiste très lourd, qui peuvent être très violents, des hyperactifs qui ne restent pas en classe. Et donc, ça aussi également à savoir que dans ces cas-là, nous nous retrouvons seuls, livrés à nous-mêmes, avec des enfants qui peuvent nous faire beaucoup de mal. Donc ça nous devient insupportable et ça devient ingérable. Nous nous retrouvons aussi à nous occuper de plusieurs enfants sur une même matinée. On peut se retrouver avec 3 voire 4 enfants, c'est-à-dire que chaque heure, on va changer d'enfant. Donc ce qui n'est pas du tout acceptable, ne serait-ce que en premier lieu pour l'enfant, où il y a un gros manque de stabilité, et nous également, où on a l'impression de faire les girouettes. On n'est pas reconnu, on n'est pas entendu, on reste invisible auprès de notre employeur, auprès des équipes pédagogiques aussi, dans certains cas. Heureusement, c'est pas de partout pareil. Hein. Moi, à titre personnel, je n'ai aucun souci avec les équipes pédagogiques, mais j'ai des retours de certaines collègues où, par contre, c'est catastrophique. Alors, pas sur le secteur Villeneuve, mais ailleurs. Voilà. Donc, et on dit stop. On dit stop à la pénurie aussi d'AESH, au manquement de notre employeur. Nous sommes payés sous le seuil de pauvreté. Pour la plupart d'AESH qui sont seules, elles sont obligées de cumuler 2 à 3 emplois pour pouvoir subvenir à leurs besoins, aux besoins de leur famille, ce qui n'est plus acceptable de nos jours. Voilà, donc nous voulons un statut de catégorie B, avec le salaire qui va avec, une reconnaissance qui va avec, et une visibilité avec des moyens supplémentaires, et qu'on arrête enfin de nous prendre pour des personnes que l'on n'est pas.
Donc on vient d'entendre ce témoignage qui est hyper important. En fait, les ASH, elles interviennent dans le cadre de la loi de 2005. C'est une loi qui a 20 ans, qui est une loi qui sur l'égalité des chances et qui en fait qui dit que tous les enfants et toutes les personnes en situation de handicap, elles doivent être incluses dans la cité. Ce qui est bien évidemment quelque chose sur lequel on revient pas, mais ça pose la question de comment on inclut et comment on passe d'un système où les personnes en situation de handicap historiquement, elles étaient accompagnées dans des établissements, dans des institutions, et comment on accompagne quand elles sont à l'école, quand elles sont aussi en emploi ou dans la cité. Et en fait, cette loi, dans l'esprit, elle est hyper engagée. Mais en fait, les moyens depuis 20 ans sont réellement pas là. Et on assiste vraiment à une souffrance et des familles et des enfants et des pros qui interviennent parce que on sait plus quoi faire, on sait plus comment faire. Et les institutions accueillent moins et sur dans des délais plus longs. Et du coup, on est vraiment dans un cercle vicieux où personne n'est à sa place, personne se sent bien. Et il y a de la souffrance partout pour les familles, pour les enfants et pour les pros. On va faire une pause musicale et on se retrouve après pour justement parler encore un peu plus en détail du champ du handicap et du travail social.
When I'm deep in enchanted woods, at last I feel fine. I swap the trunk of a tree for my spine. I spend a day or a lifetime just gazing up a pine on the green nose road, the needles, 32 limbs and still rising high. Ants in a bathroom, ants on a wall. No one ever leaves, nothing ever leaves at all. Then I'm lying in bed, my grandmother's blue and white, fine china is haunting my mind. Oh, I'm wondering if there are also ones in rows or black and white. Ants in a bathroom, ants on the wall. Nothing ever leaves, no one ever leaves at all. Empty shapes turning in my head, slowly like an advertisement. I say close up 3D hologram. Ants in a sink and dance on the wall. Nothing ever leaves, no one ever leaves at all. Ants in a bathroom, ants on the wall. Nothing ever leaves, no one ever leaves. Ants up my sleeve, ants on the wall. No one ever leaves at all.
Is it June again? Are you really dead? What's the catch? Deep within the ground, the queen's waiting for her eggs to hatch.
Vous êtes de retour sur Radio Campus pour l'émission des travailleurs sociaux de l'AG du travail social dans le cadre des 3 jours de mobilisation. On vient d'écouter Black Seed AU, Hands on the Wall. Et du coup, on a là avec nous Philippe et Rémi qui travaillent dans la même structure, à savoir un foyer de vie qui accueille des adultes en situation de handicap. La première question que je vais vous poser, on s'adresse à des personnes qui connaissent pas forcément le travail social. Concrètement, une journée type, ça ressemble à quoi ? Vous faites quoi avec les personnes ?
Concrètement, une journée type chez nous. Ça va consister, par exemple, sur une matinée type. Par exemple, on arrive le matin à 7h45, on commence par les transmissions donc, de ce qui s'est passé la veille et dans la nuit, qui est faite donc par les veilleurs de nuit. Et ensuite, vers 8h, on commence à aller dans les studios des personnes qu'on accompagne, et on les accompagne sur la toilette, l'habillage, le petit déjeuner. Ce qui fait que dans une matinée, on a entre 3 et 5 personnes à accompagner. Et on termine en général nos accompagnements autour de 11h30 avant de les accompagner au repas. Et sur les après-midi, ça va plutôt consister en des accompagnements à des rendez-vous, sur des aspects plutôt sociaux ou éducatifs, aller faire quelques courses, ce genre de choses. Et on termine les journées par le repas et puis ensuite accompagner les personnes pour aller au coucher. Voilà.
Et du coup, Rémi, les personnes que vous accompagnez, elles ont quoi comme type de handicap pour qu'on puisse se représenter ?
Alors, moi, je travaille au sein du foyer de vie. Dans cet établissement, il y a 2 services distincts, un foyer de vie et un foyer d'aide médicalisée. Donc, moi, mon travail, les personnes sont beaucoup plus autonomes, mais sinon, on accueille des personnes cérébrolésées, accidentées de la route, AVC, voilà. Donc, beaucoup de personnes en fauteuil roulant. Qui ont vraiment besoin de nous du matin jusqu'au soir.
Là, on avait entendu en AG la dernière fois, Jocelyn qui est intervenu tout à l'heure, qui disait en fait, si personne ne vient, moi je reste au lit.
Exactement.
Vous constatez quoi justement par rapport à la baisse de moyens dans vos conditions de travail ? Qu'est-ce qui vient justement freiner les accompagnements de qualité ? Vous diriez quoi ?
Déjà, on souffre d'un manque de personnel. Dans la réalité du terrain, ce qu'on se rend compte, c'est que on a de plus en plus des accompagnements qui deviennent de plus en plus lourds et compliqués pour nous, mais on est toujours le même nombre, ce qui fait que on perd sur une journée, on perd énormément de temps sur des accompagnements qui vont être uniquement du soin, ce qui fait que on va avoir beaucoup moins de temps alloué sur les aspects sociaux et éducatifs. Voilà, et puis on a aussi du manque de matériel, parfois de mauvaise qualité qui nous pénalise et pénalise surtout les personnes qu'on accompagne.
Tu peux préciser justement ce matériel, est-ce que c'est ce qui lève les personnes, est-ce que c'est ce qui leur permet justement d'être mis dans les fauteuils, ça leur fait mal?
Oui, des fois on a des matériels pour se lever les personnes qui sont abîmées parce qu'ils ont plus d'une dizaine d'années pour certains et que ça se fatigue, que c'est des matériels qui coûtent cher, que parfois beaucoup de nos résidents doivent payer aussi de leur poche, pas forcément toujours remboursés. Jusqu'ici, les fauteuils roulants, par exemple, n'étaient pas remboursés par la sécurité sociale. J'ai vu qu'il y avait un projet actuellement de la part du gouvernement, mais pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus.
Et juste, tu peux donner une idée, ça coûte combien un fauteuil roulant pour une personne en situation de handicap qui en a besoin tous les jours pour se déplacer ?
Ça peut coûter assez cher, ça peut aller jusque dans les 20 000 euros parfois, selon les besoins de la personne.
Alors, moi j'ai un chiffre à vous donner là-dessus, parce que j'accompagne une personne qui a eu besoin de changer son fauteuil roulant. C'est 2 fauteuils, le fauteuil électrique plus le fauteuil manuel. Il en a eu pour 26 000 euros, les 2.
Qu'il a financé de sa poche.
Alors, c'est un procédé qui a duré 3 ans. Il a fait des demandes d'aide financière pour pouvoir avoir ses fauteuils, ses nouveaux fauteuils. Ça a pris énormément de temps. Et aujourd'hui, il n'a pas besoin de débourser d'argent de sa poche, mais par contre, ça a duré pendant 3 ans, il y a eu des fauteuils défectueux.
Donc ça veut dire que pendant 3 ans, il pouvait par exemple être juste inconfortable dans ses fauteuils, ou même que ça pouvait empirer son handicap pendant 3 ans?
Oui, c'est bien ça. Lui supprime son autonomie, en fait. Il est encore plus dépendant de l'aide humaine.
D'accord. Et par rapport au manque de moyens humains, on a clairement dans le secteur une crise de l'attractivité des métiers. On dit qu'en fait, c'est des métiers où on n'arrive pas ou peu à recruter des gens, et souvent qui ne restent pas. Est-ce que vous observez beaucoup de turnover dans les équipes?
Oui. En fait, on fonctionne beaucoup avec des intérimaires qui pallient au manque. Mais même avec les intérimaires, on demande au foyer de vie de soulager l'autre service, donc le foyer d'aide médicalisée, parce qu'il manque un salarié. Donc ça, c'est une constatation qui a été faite en équipe, une demande qui a été faite à la direction pour savoir s'il y avait possibilité d'avoir un salarié en plus au foyer d'aide médicalisée, pour que nous, foyer de vie, on puisse faire notre travail et le mener au mieux possible.
Et qu'est-ce que ça fait pour une personne, par exemple, d'être avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas, qu'elle connaît peu, ou qu'elle va peut-être croiser une fois dans la semaine, quelqu'un qui, on l'a compris, là, va venir l'aider à se lever, à s'habiller, à faire sa toilette?
Concrètement, nous, on sait qu'on a des personnes qu'on accompagne qui ont beaucoup de mal, justement, de voir des personnes différentes chaque jour pour les accompagner, parce qu'on a aussi des personnes qui ne sont pas concernées uniquement par du handicap physique. Il y a des personnes qui ont vraiment besoin d'avoir des habitudes, d'avoir des personnes ancrées, des personnes référentes pour elles, en fait. Et chez certaines de ces personnes, ça peut générer des angoisses de ne pas savoir qui va les lever le lendemain matin, et ça peut créer des tensions, ça peut créer des personnes qui... Voilà, qui... Et puis également, on ne sait pas forcément comment travaillent les intérimaires qui vont venir chez nous. C'est un peu des fois la roulette russe à ce niveau-là, quoi.
Clairement. Et là, pour faire la question qui fâche, vous êtes en grève, du coup, vous n'êtes pas auprès des personnes que vous accompagnez. Comment ça s'est passé au niveau du service? Vous avez pu vous organiser? Vous avez pu en parler aussi aux personnes que vous accompagnez? Pourquoi vous n'étiez pas là?
Oui, on en a parlé à la fois donc à nos collègues et aux personnes qu'on accompagne. Sur l'organisation concrète du service, on a concrètement pas, de notre côté, pas prévu grand-chose. Mais c'est pour être des choses qui pourraient être à discuter à l'avenir. Et puis on en a parlé effectivement à pas mal des personnes qu'on accompagne qui... moi, en tout cas, des retours que j'ai eus, globalement, ils nous soutiennent sur nos actions, parce qu'ils savent aussi que si on revendique des meilleures conditions de travail, c'est aussi pour qu'eux, ils soient mieux accompagnés, parce que, en fait, malheureusement, la dégradation de nos conditions de travail fait que les professionnels se fatiguent, fait qu'on est obligé de se presser dans nos accompagnements, et du coup, parfois, on est obligé... de bâcler le travail, et puis les personnes qu'on accompagne, parfois, elles ne sont pas accompagnées à hauteur de ce dont elles auraient besoin ou de ce dont elles auraient envie.
Là, il y a un projet du patronat du travail social, justement au niveau des conventions collectives, de se dire qu'on peut augmenter les amplitudes et surtout faire moins de temps de repos entre le moment où on finit son service et où on reprend son service. Vous, par exemple, vous travaillez sur des amplitudes horaires de combien de temps, et combien de temps vous avez pour entre deux services pour vous reposer, vous?
Alors on fait 7h45, 14h15, et de 14h à 14h15, c'est là où il y a les transmissions, où on passe le relais à l'équipe de l'après-midi. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut rajouter?
Ce qu'on peut rajouter, c'est que parfois on a des journées de 12h, donc de 9h30 jusqu'à 21h30, qui sert essentiellement, en fait, à pallier au manque de personnel, parce que ça permet d'avoir un professionnel qui est présent sur l'ensemble de la journée. Mais en fait, ce que ça crée, ça fait que à 8h du matin, du coup, il y a un professionnel en moins qui ne peut pas aider ses collègues pour les accompagnements qui ont besoin d'être faits tôt le matin, et vice versa pour aider les collègues le soir.
Donc quand on est en 12h, on commence à 9h30 au lieu de 7h45. Par contre, on a le même planning, du coup on doit quand même faire notre travail, qui est normalement le fait de 7h45 à 14h15, et là on doit le faire de 9h30 à 14h.
Donc ça veut dire que les personnes, elles restent au lit si vous n'êtes pas là avant?
Non, oui, exactement. Ouais. Elles restent au lit, oui.
Ok. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur vos conditions de travail et les personnes accompagnées ?
Moi, je voulais ajouter un truc sur la réforme Séraphin PH, qui est une réforme qui est dans les cartons du patronat depuis 2014. Donc, c'est vraiment un plan qui est dans les tiroirs depuis un bon moment et qui a commencé à être mis en place réellement et concrètement à partir de 2025. Concrètement, depuis quelques années, on a des nouveaux logiciels qui sont apparus, des nouveaux logiciels de gestion qui sont réapparus dans nos services, où on doit cocher des petites cases pour nos accompagnements, en fait, ce qui réduit nos accompagnements à de simples actes mécaniques, sauf qu'on applique des logiques industrielles à un travail qui est profondément humain. Et nous, en fait, on n'est absolument pas d'accord avec ça. Nous, ce qu'on veut, c'est justement avoir du temps pour notre travail et qu'on soit aussi considéré pour les aspects éducatifs et sociaux. Notre travail, c'est pas que du soin, ça en fait partie et c'est nécessaire, mais c'est aussi du travail social. Simple, même un truc qui est bête, c'est que par exemple sur une douche. Alors certes, il y a l'acte mécanique de la douche, mais pendant la douche, on accompagne la personne dans son autonomie, on crée aussi du lien social, et ça, dans les petites cases du logiciel, ça n'est absolument pas tracé, on ne peut pas le tracer en cochant une case, ça. Mais pourtant, c'est dans le cœur de notre métier, c'est vraiment de cette manière qu'on noue de la relation avec les publics qui sont accompagnés. Et en fait, cette réduction de notre travail à de simples actes, concrètement, ça prépare la tarification à l'acte de nos structures qui aujourd'hui sont financées en fonction des dépenses réelles et du coup là, ça voudrait dire à l'inverse qu'on tarifie en fonction de ce qui est concrètement fait, ce qui est donc des logiques comme on le disait plutôt industrielles et qui va dans la logique de libéralisation de la santé et du social. Et ce qu'on dit ça, c'est pas uniquement des lubies de syndicalistes, hein. C'est aussi des choses qui ont déjà été constatées, puisque c'est des réformes qui ont été similaires avec le plan hôpital 2007, qui ont lieu donc dans les secteurs sanitaires, où il arrivait exactement la même chose, où ils se retrouvent à devoir faire à devoir passer 5 minutes par patient et à enchaîner les patients à la chaîne comme à l'usine. Du coup, nous, on est complètement opposés à ça, dans un secteur qui est déjà ultra précaire, avec des salaires qui sont relativement bas, ou sur les grilles de salaire de nos conventions collectives, elles n'ont pas été mises à jour depuis des années, ce qui fait qu'elles sont en dessous du SMIC. Donc ce qui rattrape et qui nous amène au SMIC ou un peu au-dessus, c'est les différentes primes auxquelles on a droit. Voilà, c'était globalement ce qu'on avait à dire. Et nous, ce qu'on veut, globalement, c'est pour exercer nos métiers de travailleurs sociaux et éducatifs concrètement et dans des bonnes conditions, en ayant la considération pour nos métiers qu'elles méritent.
Merci beaucoup. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que si on a un quart d'heure pour faire une douche et qu'en fait, on doit remplir Séraphin PH, ça fait qu'on fait 10 minutes de douche et 5 minutes d'ordi pour cliquer sur les bonnes cases, pour dire combien de temps on a passé avec les gens, ce qu'on a fait, etc. Donc, c'est du temps en moins d'accompagnement. Je vous remercie tous les deux. On va faire notre troisième pause musicale et on se retrouve juste après.
D'abord il y a eu Gisèle, et puis il y a eu Sophie, Lisa, Khadija et Marie, et ma copine Claire, et puis il y a moi aussi. Et puis toutes celles qui n'ont jamais rien dit, mais t'en as rien à faire. Toi, ce sera qu'un nom de plus sur la liste, dans un fait divers, dans un tiroir. Des tonnes de vies classées sans suite, mais tu vas rien faire. Toi, et c'est bien ça. Le problème, justice, est-ce qu'on doit te faire nous-mêmes? Car je t'accuse de fermer les yeux alors que t'as tout vu, je t'accuse. C'est pas l'innocent, t'as rien fait quand t'as su, je t'accuse. Je t'assume. pas, pourquoi t'es jamais là quand on ne croit plus qu'en toi. Demande à tous les gosses que tu ne protèges pas. Tous les monstres ne sont pas que dans les salles de cinéma. Mais t'en as rien à faire, toi. Ce sera qu'un nom de plus sur la liste, dans un fait divers, dans un tiroir. Des tonnes de vies classées sans suite, mais tu vas rien faire, toi. Ou faudrait qu'on t'harcèle, justice, est-ce qu'on doit te faire. T'accuses de fermer les yeux alors que t'as tout vu, je t'accuse. C'est pas l'innocent, t'as rien fait quand t'as su, je t'accuse. Pour celle qui avait prévenu mais que t'as jamais entendu, je t'accuse. Pour celles qui prennent la plus lourde des peines, pour les victimes de ton système, je t'accuse et j'assume.
On est de retour sur Radio Campus pour l'émission de l'AG du travail social dans le cadre de la mobilisation des travailleurs sociaux cette semaine. On va juste redonner la parole à Rémi qui avait besoin de préciser quelque chose, donc la personne qu'on a entendue qui travaille en foyer de vie et qui donc est AES, et il voulait vraiment faire une précision sur son métier.
Ok. Du coup, au sein du foyer de vie, au sein du foyer d'aide médicalisée, il y a plusieurs professionnels représentés, des aides-soignants et des accompagnants éducatifs et sociaux, anciennement AMP. Mais en tout cas, dans notre service, on n'arrive pas à faire la distinction entre ces deux corps de métiers différents. On fait exactement le même travail.
D'accord. Très bien. Merci de cette précision.
Merci beaucoup.
Et du coup, là, on va recevoir Baptiste, qui est éducateur de rue en prévention spécialisée sur Grenoble et qui va...
Salut.
Tu m'as coupé la parole.
Excuse-moi.
Et qui va nous expliquer ce que c'est ton travail pour des personnes qui sont aficionnées, enfin qui connaissent pas le travail social, et puis nous dire un peu les conséquences des manques de moyens.
Alors, donc moi, je bosse en prévention spécialisée. La prévention spécialisée, c'est ce qu'on appelle les éduques de rue. On a un mandat qui n'est pas un mandat nominatif. Donc, on travaille dans la protection de l'enfance. Et il y a personne qui nous dit « tu vas bosser avec tel ou tel jeune ». On a un mandat qui est territorial. Ça veut dire qu'on intervient sur un quartier ou des quartiers. Et on a mandaté pour bosser avec des jeunes de 11 à 21 ans. Et on a une démarche un peu particulière parce que on fait partie encore de ces travailleurs sociaux qui ne sont pas obligatoires dans le sens où il y a la libre adhésion. Alors nous parfois on parle de recherche d'adhésion, c'est-à-dire que c'est pas un juge, c'est pas un tribunal, c'est pas un conseil départemental qui va dire tu es obligé de bosser avec tel ou tel travailleur social. On est dans les quartiers et c'est le lien de confiance qu'on va tisser qui à un moment va permettre d'avoir la confiance des jeunes et de commencer à rentrer dans leur vie et de tenter de les accompagner.
D'accord. Et toi, tu remarques quoi comme évolution sur les dernières années, notamment par rapport aux politiques sociales globales, mais aussi aux moyens et aux budgets restreints ?
Bah, il y a un peu deux trucs principaux. Le premier, c'est qu'il y a une baisse de moyens. Il y a plein de départements où il n'y a même plus d'éduques de rue. Voilà, alors on pense pas que les gens aient forcément moins besoin de travailleurs sociaux de proximité qui fassent partie un peu de leur environnement au quotidien. Donc il y a ce côté-là, la prêve à des endroits elle disparaît. Et quand elle se maintient, en fait, c'est soit avec des baisses de budget, soit avec des budgets constants. Donc de fait, avec moins de moyens, hein, ça prend pas en compte l'inflation, etc. Ça, c'est un premier côté. Et l'autre chose qui va vraiment avec, c'est nous, on se dit souvent qu'on est un peu au carrefour des différents services sociaux. C'est-à-dire qu'on essaie d'avoir la confiance des jeunes, des familles, des habitants, et ensuite de pouvoir les orienter vers de l'accès aux droits, vers de l'accès aux loisirs, éventuellement à la culture, enfin voilà, les mettre en lien avec le reste de la société et des institutions. Et en fait, on se rend compte que ça va tellement mal dans le reste des institutions et de la société que c'est super compliqué. En protection de l'enfance, aujourd'hui, c'est 6 mois, 1 an et demi pour bénéficier d'une mesure éducative. Pour avoir un rendez-vous au SLS, avec les assistantes sociales de secteur, pareil, c'est la croix et la bannière. Donc nous, on se retrouve, enfin la psychiatrie, c'est pareil, on pourrait égrener comme ça l'ensemble des services. Et donc nous, on se retrouve un peu à pallier à ça, mais pas avec les moyens suffisants. Voilà, dans l'équipe dans laquelle je travaille, il y a quelques années, il y avait 4 collègues. Aujourd'hui, on est 2. Il y a un turnover comme dans toutes les structures du social. Donc voilà, on a l'impression que comme la situation générale se dégrade, celle de nos boulots aussi se dégrade, quoi.
Et tu pourrais dire quoi ? C'est quoi les problématiques des jeunes que tu rencontres ?
Les problématiques des jeunes qu'on rencontre, c'est les problématiques des enfants des quartiers, des enfants de travailleurs, et souvent de travailleurs un peu pauvres et précaires. Ça va dépendre un peu de leur âge. Les plus jeunes, ça va être vachement autour de la scolarité, ça va être autour de ce qui se passe un peu aussi à la maison, et au fur et à mesure, ça va être le rapport à ce que nous, les travailleurs sociaux, dans le jargon, on appelle l'insertion. Mais en fait, la problématique générale, c'est quelle place pour ces gamins dans la société par rapport à ce que la société, elle attend d'eux. Donc elle attend qu'ils aillent à l'école, qu'ils trouvent un emploi et qu'ils soient pas trop turbulents. Donc c'est toutes ces problématiques-là qui sont extrêmement variées. On touche à tout. On touche aux questions de scolarité, mais on touche aux questions du lien social en général, la justice, la question de l'insertion, du taf, toutes les problématiques en fait que les jeunes ils connaissent au fur et à mesure qu'ils grandissent, quoi. Donc de 11 à 21 ans, y a plein de choses. Et en même temps, on a l'impression que ce qui fait quand même le cœur de notre métier, c'est la capacité d'écoute, la capacité d'empathie et d'offrir un espace un peu sécurisant pour ces jeunes, pour qu'ils puissent avoir au moins des adultes de référent à qui ils puissent un peu tout raconter, et qui vont pas forcément leur dire « Ah, c'est pas bien ce que tu fais, ah, c'est pas bien ce que tu dis ». Donc c'est aussi ça, beaucoup notre boulot.
Et en termes d'amplitude horaire, vous travaillez comment ? Est-ce que vous travaillez le soir, par exemple ? Est-ce que vous travaillez le week-end ?
on est sur des bases de 35 heures par semaine, où ça déborde très souvent, hein. Et bien sûr, les heures sup sont pas payées. Dans la boîte où je bosse, on doit faire 2 soirées par semaine, plus un samedi par mois, de manière un peu obligatoire. Nous, cette obligation, on trouve qu'elle est infantilisante. Et en même temps, on est plutôt... l'objectif, c'est d'être là. Parfois quand on est les seuls adultes, quoi. Donc bien sûr c'est le soir, bien sûr c'est le week-end, bien sûr que c'est sur tous ces moments de vie. Tu vas pas si tu fais du travail de rue en fait le matin de 9h à 10h, bon, tu vas pas croiser les mêmes personnes et les mêmes jeunes que si t'en fais le soir très tard. Donc on bosse un peu tout le temps en fonction des projets d'équipe et de la réalité du terrain, de comment ça se passe, l'occupation de l'espace, la manière dont les gens investissent l'espace public est très différent en fonction des saisons, en fonction des jours de la semaine, en fonction de plein de trucs, quoi.
Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose, de dire quelque chose en particulier par rapport au milieu de la prévention spécialisée et des éducateurs de rue ?
On trouve que la prévention spécialisée, comme c'est une compétence facultative des conseils départementaux, c'est très souvent la variable d'ajustement. Donc je te disais, il y a eu des suppressions importantes de postes, de la disparition de la Prév, mais il y a aussi des grandes mobilisations depuis longtemps. Il y a quelques années en Ardèche, la Prév elle a failli disparaître, les collègues, les familles, les partenaires sont battus, ont réussi à la maintenir. À Poitiers, ils ont connu des énormes coupes. En ce moment, on a des collègues à Nantes qui sont en grève reconductible depuis plusieurs semaines, puisqu'on veut leur sucrer, alors eux, c'est on veut leur sucrer 4 semaines de congés payés. Quand on touche à la Prév, qui est facultative, en fait, je trouve qu'on s'attaque à l'ensemble du secteur du travail social, et on s'attaque aussi aux quartiers populaires.
D'accord. On va conclure avec ça, et puis je te remercie. Moi, je vais
merci
essayer de conclure cette émission. Donc, on a essayé de donner un aperçu de ce que ça peut être le travail social, de à quel point il peut être important à la fois dans la société, à la fois pour les personnes accompagnées. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que les politiques actuelles, notamment migratoires, et dans le cadre du handicap, comme disaient Rémi et Philippe, et aussi par rapport à les politiques de santé, elles viennent attaquer très 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 fortement les personnes qu'on accompagne, et qu'elles ont des conséquences en fait directes sur notre travail, parce que nous on se retrouve avec des situations où il y a quelques années on avait encore des moyens, on avait encore des interlocuteurs, on avait encore des relais dans certaines situations, et là en fait tout ce lien, tout ce qui fait qu'on arrive à faire tenir ensemble des gens très différents dans la société, et ben ça s'écroule petit à petit, hein. On a parlé aussi du secteur de la psychiatrie. Donc nous, c'est vraiment des choses qu'on prend de plein fouet, en fait, les politiques d'austérité en tant que travailleurs sociaux, et encore plus les personnes qu'on accompagne. Donc c'est vraiment hyper important d'être sur ces deux fronts, défendre nos conditions de travail et défendre aussi des politiques sociales ambitieuses pour les plus fragiles et les plus vulnérables. Donc on vous remercie de nous avoir écoutés. La mobilisation, elle a eu lieu là mardi, mercredi et encore aujourd'hui. On peut se retrouver à 14h devant le conseil départemental en soutien aux professionnels de la protection de l'enfance. Voilà, merci à tous.
We knew it all along. We knew it all along.
Ici Grenoble. Ici Grenoble. Le décalage est contrôlé. Je répète, le décalage est contrôlé. Restez à l'écoute du 90.8.